Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Anna Valentinovski est avec Lech Walesa, la cofondatrice du mouvement Solidarnosc, qui donna un coup décisif à l'ancienne URSS et précipita son effondrement. Cette fédération de syndicats comprenait, à une période, 3 fois plus de membres que le Parti communiste au pouvoir. Jusqu'au coup de force du 13 décembre 1981 et l'instauration de l'état de guerre par le général Jaruzelski, la Pologne apparut comme une exception dans le monde communiste et des syndicats Solidarnosc se créèrent partout, y compris dans la police. Cette lutte fut une des dernières grandes luttes ouvrières et populaires en Europe. Elle reçut un soutien international grâce à la conjonction de plusieurs facteurs importants. Jean-Paul II, premier pape polonais de l'histoire, est installé au Vatican. Andropov succède à Brejnev et, en octobre 1983, Lech Walesa reçoit le prix Nobel de la paix, ce qui contribue à en faire l'interlocuteur privilégié du régime. Cette émission datant de 1998 raconte cette histoire magnifique.
Dégagez la rue !
L'histoire en direct. ...1980, la naissance de Solidarność.
C'est à 6h ce matin, au saut du lit, que les Polonais ont appris le changement radical de situation. À 6h donc, la radio officielle de Varsovie diffuse l'hymne national. Le général Jaruzelski, le chef de l'État, s'adresse à ses compatriotes. Écoutez.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego.
Est-ce vraiment une surprise? Quand le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en Pologne le 13 décembre 1981, quand il constitue un conseil militaire de salut national dont il prend la tête, quand il arrête intellectuels et militants de Solidarność, l'opinion internationale, bien sûr, proteste. Mais les gouvernements occidentaux, comme celui de la France, qui par la voix de son ministre des Affaires étrangères affirme que bien entendu nous ne ferons rien, admettent le coup de force. Il ne fallait pas bousculer aussitôt ni aussi hardiment l'ordre issu de Yalta. Pourtant, c'est ce que s'est acharné à faire l'immense mouvement syndical polonais Solidarność, Solidarité. Car en Pologne, la révolte passe par la grève. 1956, Poznan. 1970, Gdansk, déjà, 1976, Radom. Pendant près d'un an et demi, entre août 80 et décembre 81, les militants de Solidarność ont demandé et obtenu plus de liberté pour les Polonais, avant que le couperet ne s'abatte et que les espoirs ne s'effondrent momentanément. Tout a commencé donc, comme d'habitude en Pologne, par des grèves dans l'été 80. Richard Wojna était alors vice-président du groupe communiste à la Diète, l'Assemblée polonaise.
Ça a commencé le 2 juillet dans la fabrique de tracteurs à côté de Varsovie, dans l'Ursus. Après, à mi-juillet, il y avait des grèves à Lublin. Des grèves assez graves, puisque les cheminots de Lublin essayaient de couper les lignes de communication de l'armée soviétique en l'URSS et les forces soviétiques en Allemagne orientale. Les grèves à Gdańsk, dans les chantiers, ont éclaté vers 16-17 août. Alors, on était déjà un peu préparé. On savait déjà que c'est une bataille, disons, énorme qui va s'élargir sur toute la Pologne.
Au moment du déclenchement de la grève, j'ai passé les vacances à la campagne. Mais je me rappelle bien, en écoutant Radio L'Europe Libre, qu'à Gdańsk, il y a une grève.
Sławomir Czarlewski.
Il y avait déjà un slogan, Gdańsk est libre. Pour moi, c'était le signe qu'il faut que je fasse mes valises et que je retourne tout de suite à Gdańsk. Donc, je suis retourné à Gdańsk. Jour après, j'étais devant le chantier naval, puisque Gdańsk, il s'est partagé à ceux qui étaient dans le chantier naval et à ceux qui étaient devant le chantier naval. Il y avait vraiment les chaînes de la solidarité entre la population et les grévistes. Et bien évidemment, il y avait un vrai travail qui s'est commencé. Il y avait plein de drapeaux polonais partout, et dans les entreprises, dans les institutions publiques, à l'université, vraiment partout. Il y avait d'un côté le climat, l'ambiance de la fête, en même temps une forte mobilisation, une certaine fraternité, je veux dire tout court solidarité, et en même temps le climat de tendu et une certaine peur.
Et là, je voudrais vous faire entendre un document, la première interview en français d'un gréviste de base. C'est le témoignage d'une femme qui travaille au chantier naval Lénine. Elle a dit à notre envoyé spécial Pierre Gand ses difficultés et ses espoirs.
Ça doit changer, ça ne peut pas être comme ça. C'est pas possible.
Est-ce que le syndicat indépendant, le syndicat libre, c'est important pour vous?
Mais oui, c'est très important. Ils pourront vraiment défendre les ouvriers.
Est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'au bout pour obtenir satisfaction?
C'est pas moi, mais tout le monde. Toute la grève, jusqu'au moment où nous vaincrons. Nous n'avons pas beaucoup à perdre. C'est eux qui ont à perdre. Et ils ont beaucoup, ils ont des autos, des villas, enfin des logements bien faits. Moi j'ai une chambre, qu'est-ce que je peux perdre? Si je vais au prison, j'aurai aussi une chambre.
Les ouvriers, les grévistes ne demandaient seulement pas le meilleur salaire, mais le comité de la défense des ouvriers, corps en polonais, groupant des gens comme Michnik, Bujak, et enfin des intellectuels polonais, a réussi à mobiliser une partie des ouvriers pour ce mot d'ordre, et par ce mot d'ordre, et surtout davantage de liberté. Alors, dans un système du socialisme réel, c'était déjà la bataille pour tout.
C'était certainement une grève spontanée, mais pas vraiment spontanée. Je ne veux pas dire que d'un coup, il y a des ouvriers, des travailleurs qui ont dit « on a assez, on fait la grève ». Puisque, de toute façon, il faut aussi une certaine réflexion et aussi quelques structures. Alors je pense que déjà dans quelques grandes villes polonaises, Varsovie, Cracovie, Gdańsk, il y avait un travail immense des petits milieux que nous avons appelés l'opposition démocratique, qui a déjà fait un travail dans les milieux peut-être restreints, mais déjà bien préparés. Les intellectuels, les étudiants et même les ouvriers, puisque il y avait déjà les groupes qui se sont appelés les syndicats libres. Notamment, et M. Waleza, il a milité dans un tel mouvement d'opposition démocratique à Gdańsk.
Je n'ai peut-être pas beaucoup d'intelligence, mais j'ai du cœur.
Lech Waleza, devant les ouvriers de Gdańsk.
Nous allons gagner, même s'il faut 5 ans pour cela.
Monsieur Wałęsa, il est devenu un symbole très rapidement, et grâce à sa volonté, son culot et son sens d'organisation. Il a pris vraiment le commandement de cette grève.
Et puis je me souviens, j'étais avec ma femme en voiture.
Wojtek Psoniak, comédien.
Tout d'un coup, on a écouté les radios et la grève de chantier naval à Gdańsk a été prononcée. Ah ça, j'oublie jamais, hein. J'oublie jamais les ouvriers qui picolaient, tout ça. Là, le mot solidarne, c'est-à-dire la solidarité, avait un bon sens. Vraiment, c'était exactement ça.
Sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Pierre Gantz.
La vie est parfaitement organisée à l'intérieur de ce bastion qui est devenu le chantier naval Lénine à Gdansk. En permanence, 9 à 10 000 ouvriers y occupent les ateliers, ne rentrant chez eux que tous les 2 ou 3 jours pour une rapide toilette. Le bleu de travail est de rigueur compte tenu des conditions de vie. Dans l'atelier d'électricité, une table improvisée a été dressée contre le mur et des sacs de couchage sont étendus entre 2 générateurs. Une fois par jour, les voiturettes électriques du chantier amènent aux différents bâtiments le repas confectionné à la cantine. Généralement, un bouillon de viande et de légumes et 2 pains blancs arrosés de café ou de thé. Pas d'alcool, prohibé dans toute la ville pour éviter les risques de bagarre. Un service de sécurité monte la garde à l'entrée des salles de réunion. Des étudiants sympathisants venus parfois de Varsovie se sont improvisés techniciens de la sonorisation ou interprètes. Et puis, toutes les nuits, l'imprimerie du chantier tire un bulletin faisant le point des grèves et distribué clandestinement sur toute la Pologne son titre « Solidarité ».
Edmond Maire, quand avez-vous entendu parler pour la première fois de Solidarność ?
Ah bien, dès 80. Le hasard a voulu qu'un militant de la CFDT, Claude Sardet, se trouve à Gdansk au moment de la grève. Et la grève avait démarré. Et il est venu me voir, j'ai décidé qu'on allait donner 10 000 francs, quoi, après avoir consulté mes camarades, donner 10 000 francs. Et il est allé sur place et ça a été le début de liens très forts. Parce que, si vous voulez, dans le bloc totalitaire de l'Est, nous suivions avec passion et attention tout ce qui pouvait bouger et être un ferment d'évolution. C'est aussi bien les premiers mouvements de grève, d'ailleurs, en RDA, en Allemagne de l'Est, ensuite, bien sûr, en Hongrie, puis en Tchécoslovaquie. À chaque fois, nous avions agi, mais peu syndicalement. Et là, pour la première fois, il y a un espoir de voir des luttes sociales faire bouger un système. C'était un espoir presque insensé.
Nasze żony, nasze matki są wśród nas. Całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili, ale muszą jeszcze wytrwać.
31 août 1980, Lech Walesa annonce la victoire des grévistes aux portes des chantiers navals Lénine à Gdansk.
Nous l'avons pas écrit, tout le monde sort, sinon je ne serais pas d'accord. À la télévision, ils vont certainement les couper, mais j'ai ici tout par écrit. Moi, je ne vends pas les gens. Il y aura certainement des petites fautes. Il y en aura qui voudront nous tromper. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons gagner ensemble, car ensemble nous sommes forts.
C'était le moment inoubliable. J'étais devant les grilles des chantiers navals.
Slavomir Chalevski.
La porte numéro 2, fameuse porte numéro 2. Oui, monsieur Walesa, il est apparu, il a dit, voilà, on a signé l'accord de Gdańsk aujourd'hui. Je me rappelle bien, comme la porte était ouverte, les grévistes sont sortis. C'était vraiment, il y avait énormément de gens, il y avait des plaires, des joies, des rires, énormément d'émotions, comme une fête nationale. Vraiment, c'était la population polonaise, les jeunes, les vieux, les intellectuels, les ouvriers, les étudiants. C'était quelque chose, c'était vraiment une grande victoire de la Pologne.
Lech Walesa.
Avons-nous obtenu tout ce que nous voulions, tout ce dont nous rêvions? J'ai toujours dit sincèrement et ouvertement ce que je pense. Nous n'avons pas eu tout ce que nous voulions, mais nous avons obtenu énormément.
L'hymne national polonais.
La plus longue grève de l'histoire de la Pologne communiste se termine donc le 31 août 1980. Le régime a voulu rompre avec sa répression habituelle, pas de mort donc à Gdańsk, mais des accords. Des accords dont le principal point stipule la création de syndicats libres en Pologne. Au pouvoir, on va changer. Stanislas Kania remplace Édouard Guirec. Mais tout n'est pas gagné pour autant pour les grévistes. Les membres du comité d'autodéfense des ouvriers, le COR, et les fondateurs de Solidarność sont régulièrement insultés et traités d'ennemis du socialisme dans les médias officiels. Ce qu'il faut, c'est donc construire, depuis Gdańsk, un syndicat qui s'étende à toute la Pologne. Ces statuts seront déposés en novembre 1980. D'ici là, il faudra continuer à négocier avec le gouvernement. Sławomir Czarlewski.
Alors moi, je suis entré à Solidarność dans les structures nationales en novembre 1980. Et donc j'étais en train de créer les cellules, par exemple une cellule d'archives, une cellule de contact avec les structures du gouvernement, une cellule de porte-parole de Solidarność. Et finalement, peut-être c'était plus facile gérer le syndicat de Varsovie, mais je pense que la majorité des commissions régionales, ils ont préféré que ce soit à Gdańsk. C'était aussi un certain message par rapport au pouvoir qui est à Varsovie. Nous, là, on va faire notre Solidarność à Gdańsk. Ceux qui étaient les plus visibles, qui étaient peut-être les plus souvent pendant les commissions nationales, c'était M. Geremek et M. Mazowiecki. Ils avaient l'influence vraiment très importante. Et ils ont influencé beaucoup de décisions de M. Waleza et des commissions nationales de Solidarność. Mais la décision était complètement souveraine. M. Waleza écoutait, mais je crois qu'il a pris toujours la décision lui-même.
Donc ça n'était pas une marionnette, comme certains ont bien voulu le montrer.
Non, pas du tout.
Lech Waleza, au téléphone avec le gouvernement polonais.
Je pense que lundi, tout le monde va être debout. Je vais faire une grève. J'en ai marre des blagues. Transmettez au gouvernement que lundi, il y aura probablement une grève générale. Merci. Moi, je n'ai peur de rien. Je peur seulement de Dieu. Mais s'il faut donner sa tête, je donnerai la mienne.
Ja się nie boję niczego. Boga się boję niczego więcej. Ale trzeba, to trzeba i głowę położyć.
Le climat était extraordinaire, tout le monde sentit qu'il y a les choses extraordinaires qui se passent.
Christina Aymar, militante de Solidarność.
Donc il y avait énormément de mouvements comme ça. Il y avait par exemple le cycle de l'université volante, on l'appelait comme ça. Donc il y avait énormément de conférences, de débats politiques surtout, économiques et sociales, qui ont été et juste avant Solidarité et tout de suite après. Et j'ai participé au débat avec Michnik et Kuroń par exemple, dans ce qui m'a marqué énormément, parce que bien sûr, entendre parler des gens ouvertement de notre passé, de notre histoire, des choses qu'on nous a cachées, c'était un grand moment.
On a parlé à juste titre, en combien, de Lech Walesa comme
Edmond Maire.
Son style, sa manière d'être, son charisme a joué un rôle très grand. Mais il y avait très vite, tout autour, des militants de très grande valeur. Ce noyau, plus que noyau, enfin je veux dire, cette structure, ce squelette, en tout cas, de ce qui est devenu ensuite un très grand corps militant, était vraiment de très grande qualité.
Et lorsque la CFDT avait invité des militants de Solidarność, une vingtaine sont venus du 24 mai 81 au 8 juin.
Michel Carputa.
Ils sont allés en formation à Birville. À Birville, on leur a montré un peu les structures de la CFDT.
Dans un centre de formation de la CFDT.
Voilà, voilà. Ensuite, ils ont été répartis par groupe de trois dans différentes régions de France. Et il y en a eu trois qui sont venus chez nous. je leur ai fait découvrir un peu les structures de la CFDT dans la région Nord-Pas-de-Calais. Parce que tout était à créer. En Pologne, il y avait eu les syndicats officiels, mais qu'ils étaient menés par les communistes, et un syndicat démocratique, tout était à créer. Donc, je peux vous dire que pour eux, c'était une véritable découverte.
C'est vrai qu'il y avait un travail immense des intellectuels, de tous ceux qui ont appartenu avant à l'opposition démocratique, mais...
Slavomir Tchernevski.
Après, il y avait une tension, et puisque les pouvoirs ils voulaient imposer les procédures ou les principes que nous ne voulions pas accepter. Après, il y avait un fameux événement à Bydgoszcz, c'était en mars 81, où il y avait une provocation de la police qui a intervenu pendant un débat entre les syndicalistes Solidarność et le conseil municipal à Bydgoszcz, qui a provoqué une épreuve de force, une grève nationale. Le premier congrès de Solidarność, qui était très important, qui a montré, pas seulement à nous-mêmes, mais aussi au pouvoir et surtout à l'opinion publique internationale, que le mouvement de Solidarność ou le syndicat de Solidarność, c'est vraiment une force réelle qui est très nombreuse en Pologne.
C'était à quelle date ce congrès?
Le congrès, c'était l'été 81.
Et, si vous voulez, les derniers mois avant l'état de guerre,
Christina Heimer.
C'était le pressentiment que quelque chose se produirait. Et donc d'abord, il y avait différents mouvements sociaux. Il y avait les agriculteurs qui ont créé leur propre syndicat. Il y avait étudiants, donc pratiquement même au sein de la police, ils ont créé leur syndicat Solidarité. Donc, l'État a vu des choses comme il s'est sauvé de leur contrôle. Donc, il y avait de plus en plus de provocations, par exemple, pendant la réunion à Bydgoszcz, bon, un de principaux acteurs de Solidarité a été frappé. Il y avait après le procès, etc., etc. Donc, il y avait sorte de... d'actes néfastes vis-à-vis de Solidaire. Et puis, il y avait des manœuvres. Chaque fois, ils nous ont montré à la télé les gens bien qui ont voulu dire que ça suffit. Maintenant, on se met au travail. Maintenant, avant, on a manifesté. Et maintenant, il faut maintenant que toutes les choses reviennent en ordre.
Il a donné plus d'une migraine aux dirigeants soviétiques, on parle de lui pour le prix Nobel de la paix, on a vu sa moustache à la une des journaux et sur les télés du monde entier. Le chef du syndicat polonais Solidarité, Lech Walesa, est donc arrivé en France, notre reporter Luc Évrard.
Pragnę wam i tym wszystkim, którzy głosili solidarność odradzającą się Polską, solidarność z solidarnością, wyrazić głęboką wdzięczność.
Je voudrais m'exprimer ma profonde reconnaissance à vous et à tous ceux qui affirmaient la solidarité avec la Pologne renaissante, la solidarité avec Solidarność.
Il y a eu, en 81, la préparation du voyage de Lech Walesa.
Michel Carputa, militant CFDT.
Et au moment de son périple chez nous, dans notre région, au cours de la messe à Lens, il y a eu un événement très très important qui s'est passé en Pologne, c'est que le président Kania a donné sa démission. Je suis allé sur l'estrade où il y avait Geremek qui était là, et Geremek, je lui souffle à l'oreille en lui disant que Kania a donné sa démission. Et Wałęsa, qui lui était tout en avant, lui ne savait absolument rien de ce qui se passait. Puis d'un seul coup, j'entends à la radio qu'ils disent que Kania est remplacé par Jaruzelski. Tout de suite, je bondis à l'intérieur de du chapiteau et je vais voir Geremek et puis je lui dis, tu sais, c'est Jaruzelski qui remplace Kania. Après un temps de réflexion, il m'a dit, oh, quelle chance. Et je dis, pourquoi quelle chance? Ben, il dit, parce que il a eu toute sa famille qui a été massacrée à Katyn. Et Katyn, c'est un lieu vraiment où tous les officiers polonais, ils ont été massacrés par les Russes. Au début, ils disaient que c'était les Allemands, mais ensuite par les Russes.
Coup de théâtre en Pologne, Stanislas Kania s'en va. Il est remplacé à la tête du parti ouvrier par le premier ministre, le général Jaruzelski. Stanislas Kania avait dû naviguer entre les syndicats libres et Moscou. Il avait subi les critiques des uns et des autres. Mais depuis 48 heures, il avait dû faire face aux attaques des membres de son propre parti. Monsieur Guéremec au micro de Luc Évrard.
Monsieur Jaruzelski était le chef du gouvernement depuis plusieurs mois. Et son arrivée au pouvoir a donné pas mal d'espoir aux Polonais parce que on pouvait penser que le gouvernement va gagner une certaine efficacité d'action. Je serais très étonné s'il y avait un durcissement parce qu'un durcissement de la politique interne pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Et je pense que tout le monde en est conscient. Ce qu'il faut chercher, c'est le consensus national.
Le général Jaruzelski n'est pas un nouveau venu. En février 1981, il avait déjà été nommé à la tête du gouvernement. Il gardait également le portefeuille de la défense. Sa préoccupation, c'est, dit-il, d'éviter l'intervention du grand frère, le parti communiste d'Union soviétique. Il faut donc limiter les prétentions de Solidarność. Or, le syndicat gagne sans cesse des adhérents, 10 millions revendiqués à l'automne 1981, avec de nouvelles revendications, une vie libérée de la pauvreté, de l'exploitation, de la peur et du mensonge dans une société organisée démocratiquement et sur la base du droit. Solidarność lance un défi au pouvoir, il exige des élections libres. Jerzy Urban était le porte-parole du gouvernement Jaruzelski.
W drugiej połowie 81 roku ilość strajków była ogromna.
Je me rappelle que la deuxième moitié de 1981, c'était la période de beaucoup de grèves. Et il éclatait un peu partout et souvent sans raison. Par exemple, une fois, il y avait une grande partie de la Pologne qui était en grève parce qu'un membre de Solidarité n'a pas reçu un poste fixe dans une usine et tout le monde disait qu'il devait l'obtenir, tandis que ce n'était pas l'opinion des dirigeants. Le deuxième exemple, c'est quand les étudiants se sont mis en grève parce que dans une académie, quelqu'un qui était élu recteur, il était membre du parti et il pensait qu'il ne devrait pas être élu. La faute majeure était à Solidarité, puisque c'est un mouvement qui s'est radicalisé. Et en ce qui concerne le gouvernement, sa première faute, c'était de ne pas pouvoir mettre en place des réformes nécessaires, de céder à toutes les demandes. Et Solidarité, c'était en fait une force révolutionnaire qui avançait, qui bloquait l'administration, qui provoquait beaucoup de dégâts au niveau du gouvernement.
Je pense que ce qui me revient à la mémoire, ce sont surtout les débats télévisés.
Christina Aymar.
On a senti que la tranquillité, stabilité de l'État est menacée. On nous a dit de tous les côtés que tous nos voisins se sont menacés aussi. Que d'abord, c'est ce qui était vrai d'ailleurs, surtout en République tchèque, RDA. Ils étaient encore plus farouchement hostiles par rapport à Solidarité que l'Union soviétique à l'époque. Ils ont eu peur que ça va contaminer leur pays. Donc, c'était tous les temps, les débats, pour montrer aussi que le mouvement Solidarité, ce sont des gens qui n'ont pas de responsabilités et qui veulent des choses qui dépassent les réalités. Même les gens qui veulent renverser le régime. On nous a dit ça de plus en plus clairement que c'était les ennemis, en fait.
List otwarty do pana generała Jaruzelskiego.
Dans ma gamme chez Abidjan, lettre ouverte au général Jaruzelski, publiée dans les bulletins de solidarité des Wroclaw, octobre 1981. Nous exigeons que le gouvernement, premièrement, demande à l'URSS les paiements en dollars et non pas en roubles de tous les investissements réalisés par la Pologne en URSS en tenant compte d'un taux d'intérêt de 10 à 15%. Deuxièmement, informe l'opinion publique de l'usage des emprunts en devise. Troisièmement, renonce à la participation de la Pologne dans le programme de la conquête de l'espace et qu'il stoppe l'aide économique aux pays du tiers-monde comme le Vietnam, l'Afghanistan, le Cambodge et les autres.
Tout de suite après, on a senti que le climat s'alourdit. Ça veut dire que la revendication de Solidarność, il y avait un certain blocage pendant les négociations entre le gouvernement et Solidarność,
Sławomir Czarlewski.
Ce qui a provoqué que Solidarność il a commencé à formuler les revendications dans les termes plus clairs, plus simples, ce qui a provoqué tout de suite aussi une réponse aussi un peu trop forte de côté du pouvoir, mais je crois que c'était déjà provoqué pour bloquer, pour stopper, pour changer le climat, pour créer un climat de méfiance et de la peur dans la société.
Po siódme, uporządkował zagadnienia opłat tranzytowych, règle la question des tarifs de transit au niveau européen et que l'activité basée sur les principes d'aide-coopération soit révisée dans des termes de marché, crédit, profit. Rien n'est gratuit dans le monde et nous en savons quelque chose. Huitièmement, informe l'opinion publique en quoi consiste notre aide au tiers-monde et quel est son montant. Neuvièmement, informe l'opinion publique de la valeur du PIB et de la manière dont il est utilisé. 1097 signataires de la lettre de Solidarność Kalisz. La lettre est restée sans réponse de la part du Premier ministre.
Et on savait qu'on doit trouver une solution à la polonaise.
Richard Wojna.
C'est-à-dire une solution qui serait acceptable pour tout le monde, sans violence, sans l'intervention soviétique. Le 4 novembre, se sont rencontrés trois messieurs. Monsieur général Jaruzelski, Walesa et le primat de Pologne, cardinal Glemp. Jaruzelski a proposé de se mettre d'accord sur certaines choses. Walesa a interrompu en demandant une pause parce qu'en ce moment-là, à Varsovie, siégeait le Conseil national de Solidarność, de solidarité. Il veut d'abord demander qu'il obtient le pouvoir nécessaire de négocier avec Jaruzelski. Il est revenu une demi-heure plus tard en disant non, mes collègues ne sont pas prêts à discuter maintenant. Un compromis possible, je crois qu'il se croyait déjà vainqueur. D'après moi, c'est une faute, quoique rien ne pouvait se décider encore en ce temps-là, puisque le temps n'était pas encore mûr pour une décision finale. À Moscou, c'était encore Brejnev. Et au fond, il fallait attendre pour que la situation mûrisse à Moscou, avec Gorbatchev, avec Perestroïka.
Jerzy Urban.
Le syndicat de solidarité a prévu pour le 17 décembre les grandes manifestations dans tous les pays et selon les informations de notre police politique, ça pouvait aboutir à des attaques sur des arsenaux et ça pourrait rappeler en quelque sorte Budapest 56.
Il n'y avait donc pas d'autre solution selon vous que le coup de force du 13 décembre?
Absolument oui, et ce n'est pas seulement pour cause du danger de la part de l'Union soviétique, parce que c'est le sujet largement débattu par les historiens, mais surtout à cause de la situation intérieure de la Pologne.
Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność.
13 décembre 1981, comment apprenez-vous l'état de guerre, Christina Emma?
Donc, j'ai mis comme d'habitude la radio en route, mais il y avait le bruit, il n'y avait rien. D'un seul coup, je pense que c'était 7 heures du matin, le général Jaruzelski a prononcé son discours. C'était très choquant pour moi, donc il s'est adressé à nos citoyens que, bien sûr, il faut rester à la maison, il ne faut pas bouger, que tous les gens qui ont détruit la tranquillité, le développement de la Pologne seront arrêtés et puis la Pologne va connaître le futur plein de bonheur, etc., etc. Donc je me rappelle que c'était le début de l'hiver. Le temps était formidable, il a fait très froid, mais avec beaucoup de soleil, plein de neige. Donc les rues dans ma ville, qui a quand même plus que 200 000 habitants, étaient complètement vides. J'arrive chez mes parents, donc on regarde la télé, ce sont toujours les gens dans les uniformes, donc même les présentateurs ont dû mettre leurs uniformes. C'est toujours la musique solennelle, Chopin, ou marche militaire, quelque chose comme ça.
Et bien évidemment... Je me souviens le 13 décembre 1981.
Wojtek Psoniak.
Je me suis dit, oh, Chopin, c'est mauvais signe, parce que les communistes utilisaient toujours la musique de Chopin pour annoncer soit l'augmentation des prix, ou ça, tout ça. C'est pas bien ça. Et bien évidemment, au bout de 5 minutes, il y a Jaruzelski qui a pris la parole, tout ça. Donc cette nuit, j'oublie jamais non plus. On a essayé de se communiquer, les téléphones étaient coupés. Donc pour la première fois, je me souviens quand j'étais petit, je me souviens de l'époque de Staline. Comme par exemple, le KGB polonais est venu chercher mon père qui était fonctionnaire calme. Ils ont pris pour un mois et demi sans dire où, pour quelles raisons, etc., etc. Donc, vous savez, cette coupure de téléphone, tout ça, la radio, il n'y a rien. Le journal télévisé était en uniforme, donc ça m'a marqué. Hein.
En quelques heures, le 13 décembre 1981, l'armée procède à près de 6000 internements. Les structures de Solidarność sont apparemment détruites. Les quelques poches de résistance dans les usines, dans les mines, sont éliminées. 7 morts à la mine Wojek. Lech Walesa est mis en résidence surveillée, puis interné, comme Bronisław Geremek et Adam Michnik. Mais Solidarność appelle d'abord à une résistance passive. Le syndicat demande à ses militants de ne pas prendre de risques inconsidérés et surtout d'aider les familles des internés. Puis, dès le milieu de 1982 et après la libération d'une partie des internés, les manifestations repartiront de plus belle.
De la prison de Głogów, nous saluons tous les collègues du pays, en particulier ceux qui ne se sont pas rendus aux forces publiques et qui luttent au sein de notre organisation pour un meilleur avenir, car tel est le projet de Solidarność. Nous savons que cet avenir sera le nôtre. Nous voulons vous adresser par solidarité des chansons qui ont été créées depuis décembre. Les paroles sont historiques puisqu'elles sont nées derrière les barreaux. À tous, je transmets mes pensées et mes espoirs. C'est ma valse, mon fils, tu aimes valser, mais n'aie pas peur. Ton internement va bientôt se terminer. Mon fils chéri, bientôt nous aurons un pays libre. L'aigle couronné sur les drapeaux.
L'état de guerre m'a trouvé en France. J'étais à Lille, ce jour-là, chez mes amis. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'image...
Sławomir Czarlewski.
Il y avait une larbre devant la fenêtre qui était cassée. Et pour moi, le 13 décembre, c'était l'arbre cassé. C'est l'image qui reste devant mes yeux. Toujours. Donc j'étais en France, et j'étais très malheureux et en même temps j'étais étonné par tout de suite une mobilisation et solidarité de la société française, du peuple français. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai tout de suite assisté à une manifestation absolument spontané à Lille. Après, il y avait plein de manifestations partout, en commençant par Paris. Donc, comme j'ai appris qu'il y a un comité qui devait se former, comité de Solidarność à Paris, donc j'ai pris la voiture et avec des autres collègues, j'ai signé la création du comité coordination du syndicat de Solidarność en France, qui était épaulé par le syndicat français, bien évidemment.
Et on sait bien comment a réagi ensuite le gouvernement français qui a fait de la réelle politique, quoi.
Et de mon maire.
Le malheureux Claude Cheysson a eu une expression, une phrase qui commençait par « il est urgent de ne rien faire ». Alors, même si la phrase était plus longue, il n'empêche que le gouvernement français, comme les autres gouvernements occidentaux, non, sont dit, oulala, affaires intérieures, danger, n'y mettons pas le doigt. Alors nous n'avons pas mis seulement le doigt, nous avons mis la main, le bras et tout entier.
Décembre 81, janvier, février, mars 82. C'était le plus dur, hein.
Wojtek Psoniak.
Premièrement, il y a beaucoup d'amis qui ont été internés, hein, envoyés dans le camp, tout ça. On ne savait rien. La nuit, paf, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Donc on ne pouvait pas se communiquer. On se sentait isolé. Mais vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui habite à Neuilly et tout d'un coup, il va à place d'Italie pour demander ses copains qu'est-ce qui se passe à pied. Donc, et les gens, c'est comme ça, la neige, il faisait froid. Et vous ne pouvez pas sortir après 23 heures, hein, le soir. Et donc c'était vraiment... Il fouillait le coffre de nos voitures. Et, non, c'est la guerre. Le char au coin, dans l'angle de grands boulevards, etc. Bon, non,
et les militaires? Les militaires russes en particulier? Est-ce qu'ils étaient
non,
là?
Non, il n'y avait pas. Ah non. Ah non, non, non. Que des militaires polonais, il n'y avait pas de militaires russes. Voilà, c'est ça.
Il était jeune et il chantait qu'il est temps de faire tomber les murs. Arrache les dents des barreaux, casse les menottes, casse les bâtons, et les murs vont tomber et ils vont enterrer le vieux monde.
Les premiers temps, nous n'avions aucun contact.
Michel Carputa.
Nous n'avions aucun contact avec les gars de Solidarność. Au point que la CFDT, elle a organisé un convoi. Ça a été organisé par la Fédération des équipes de Saint-Vincent, groupe polonais de Paris, parce qu'on ne pouvait pas envoyer un convoi humanitaire au nom de la CFDT. C'était pas possible, on aurait été stoppé. C'est la CFDT qui a payé, et je peux vous dire, j'ai la facture, ça avait coûté à ce moment-là 58 726 francs, toutes les denrées qu'on avait. On avait deux camions de 35 tonnes. Mais notre mission, c'était surtout d'aller dans les villes de Zgorzelec, Lignica, Wrocław, Opole, Gliwice, Bytom, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Kłodzko, Niza, Wałbrzych et Zielona Góra. C'était pour retrouver les militants polonais dont nous avons eu chez nous et dont on n'avait pas de nouvelles.
Donc il s'agissait pour vous, de la CFDT, d'utiliser la structure de l'église polonaise et de l'église en France également,
oui,
pour pouvoir
nous infiltrer. Nous étions à quatre, il y avait les deux chauffeurs des camions, il y avait un responsable syndical de Paris et puis moi-même. Moi-même, j'étais traducteur. Nous avons distribué des colis un peu partout, mais nous avions des adresses bien précises, comme par exemple... à Wrocław. Ensuite, il fallait que j'aille voir l'évêque de Katowice. J'ai réussi rapidement à aller chez lui. Et alors, il me demande qu'est-ce que je viens faire. Ben, je dis, je viens voir des nouvelles de un tel qui... Ah, il dit, justement, sa femme vient de sortir de chez moi. Ah bon? Mais je dis, oui, mais bon, ben voilà, parce que je viens de la CFDT, de France, et puis on n'a pas de nouvelles de lui, tout ça. Et vous lui direz que moi, je suis la personne qui, lors de son départ de France, lui a apporté une rose rouge à Orly. Mais je dis, mais mon père, je dis, comment vous allez le contacter? Parce qu'il dit, bah, c'est moi-même que je vais aller le voir. Je dis, comment vous allez le contacter? Oh, bah, il dit, c'est très simple. Vous savez, tous les militants de Solidarność, ce sont de très, très grands pécheurs. Et je suis obligé d'aller les confesser chaque semaine. C'est comme ça que tout se passait. Même l'évêque dans le coup.
C'est-à-dire que c'est bien l'église polonaise qui a servi de structure pendant l'état de guerre.
Oui, pendant l'état de guerre.
Et l'église a organisé le spectacle de rencontres avec les gens, des politiciens, de membres de corps, tout ça. Et tout le catholique, croyant ou pas croyant.
Wojtek Psoniak.
Même Wajda, il a fait la mise en scène de certaines pièces gratuitement. Pour, tout simplement, pour dire, je suis là. Je suis avec vous. Avec Solidarność. Il n'y avait pas de propagande. L'opposition n'avait pas de journaux, il n'y avait pas de moyens, il n'y a pas de télé privée. Vous savez, c'est déjà loin. C'est vraiment au moins 2 millions d'années. C'est vrai que l'Église a cassé le monopole. Et grâce à l'Église, aux gens qui s'engageaient, petit à petit, dans les petits villages, il y a beaucoup de paysans. En Pologne, ils ne savaient rien du tout. Les ouvriers, il fallait... expliquer petit à petit.
Więc jest zmartwychwstanie. Nie ma ciała w grobie, więc on do nas idzie. Może już przyszedł.
Andrzej Wajda monte une pièce avec Krystyna Janda et Daniel Obrinski dans une église de Varsovie.
Cette pièce a été proposée il y a quelques mois au programme du théâtre Athénée à Varsovie. L'auteur voulait qu'elle y soit représentée et je devais la mettre en scène. Hélas, les autorités qui ont tout pouvoir sur les programmes des théâtres de Varsovie l'ont rejetée. Elles ont décidé qu'on ne pouvait la monter dans un théâtre d'État. Je me suis donc demandé où la jouer. Je ne peux accepter qu'une nouvelle pièce polonaise, écrite par un excellent poète, ne puisse être représentée. Je me suis dit qu'il fallait alors la monter là, dans un endroit où l'on se bat pour que tout naisse, et c'est dans cette église.
Alors, les comédiens, évidemment, comme Média a été sous contrôle militaire et tout ça, et je ne voulais pas croire. Il y avait vraiment un bloc de résistance extraordinaire. Il y avait quelques comédiens qui se prononçaient en faveur de cet état de guerre et tout ça à la télévision, mais après, ils ne pouvaient pas jouer en scène parce qu'il était. Tout, ils pouvaient même dire une phrase, hein, parce que le public applaudit tout le temps. Ah oui, et puis il entrait en scène et puis il applaudit. C'est tout le temps. Non, comment on peut faire? Et puis la police ne peut rien faire non plus. Donc on ne peut pas emprisonner toute la nation.
Notre pays voit éclore des milliers de fleurs. Notre république est belle. Personne n'y vole, personne n'y tue, car la sainte milice la surveille. Le parti, la force motrice de la nation, va éloigner notre pays de la famine. La contre-révolution ne se développe pas, car la sainte milice la surveille.
Quant à nous, au comité de Solidarność, tout d'abord, on a commencé notre travail par faire la liste de ceux qui étaient emprisonnés, qui étaient internés. Et puis, on a fait un très gros travail aussi pour que les familles françaises prend en charge une famille de personnes internées ou emprisonnées. Après, on a commencé à créer les contacts avec les structures clandestines en Pologne. Finalement, déjà au printemps, nous avions les contacts avec la direction clandestine qui s'appelait TKK, donc une commission nationale temporaire qui s'est créée et qui s'est cachée un peu partout. Donc il y avait les réunions dans beaucoup de villes polonaises.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
12 avril dernier, première émission de Radio Solidarność. Les speakers invitent les Varsoviens à indiquer la qualité de la réception aux observateurs en éteignant et en rallumant la lumière une, deux ou trois fois. Ils demandent aussi d'enregistrer leur voix pour authentifier à l'avenir la radio avec certitude. Ils incitent les Polonais à se battre pour la libération des prisonniers, la réinstauration des droits de l'homme et le renouveau du syndicat.
Nous-mêmes, nous avons commencé à envoyer d'abord les petits équipements pour créer la presse libre et indépendante, tout à fait. Donc les Roneo, tout petit équipement, les offsets qui permettent de produire les tracts, la presse et après les livres. Et donc surtout, nous voulions regagner la bataille pour la liberté de parole, de l'expression.
Et puis, le rôle des femmes.
Michel Carputa.
Ces femmes qui, leur mari depuis des mois était en prison, qui se débrouillaient, qui travaillaient, qui venaient participer à ces comités de soutien aux familles et tout ça, c'est incroyable. Non, d'abord, c'est pratiquement que des femmes que j'ai vues qui nous aidaient dans les églises, qui nous aidaient. Parce que généralement, les églises, ils ont de très grandes caves. Comme par exemple, on a rencontré Christina, qu'elle tenait des permanences juridiques dans ces caves pour les femmes des internés.
Moi, j'intégrais le comité au début de 1983, en fait. Donc, on était à peu près 7-8 dans ce comité. Donc, ce comité a joué le multiple rôle, c'est-à-dire distribution des biens aux familles. On a eu aussi, un tout petit peu plus tard, le contact avec les gens qui se sont cachés, en fait. On a eu les registres, d'ailleurs, quand ils nous ont fait quelquefois les fouilles, les procureurs, ils n'ont jamais rien trouvé. Ils savaient bien qu'on atteignait le registre, mais notre chef de comité, c'était une femme très intelligente et très combattante, ingénieure. Comme son mari, ils étaient tous les deux internés pour l'heure. Travaille en tant que chef de ce comité. Donc, ils ont voulu toujours trouver les archives. Par contre, si vous me posez la question concernant mon rôle, donc, bien sûr, j'ai fait comme les autres, mais plus particulièrement, les gens qui ont été menacés qu'il faut qu'ils quittent leur appartement, qui ont appartenu à la société, j'ai écrit les lettres juridiques, c'est-à-dire je me suis présentée avec eux au tribunal et surtout, on a gardé très proche contact avec certains avocats qui ont défendu ces gens, en fait.
Il y avait deux phases de Solidarność. Il y avait la phase clandestine et puis il y avait la phase publique. Eh ben, la phase publique, par exemple, il y avait des manifestations à Częstochowa, il y avait, par exemple, tous les jeudis, il y avait une grande messe à Krakow, à Nowauta. Eh bien, c'est une messe qui démarrait vers 19h, elle se terminait vers 21h, et parfois, il y avait encore des pièces de théâtre, eh ben, on est sorti de là vers minuit. Et publiquement, la salle, elle était bourrée. Le prêtre, dans son sermon, je l'entendais dire, ici, il y a des gens du SB, c'était le service de renseignement, qui sont là, mais je m'en fous, j'explique, je parle, c'est un lieu de liberté, cette église.
C'est à l'église, c'est dans les églises, dans les bâtiments des églises, que ces gens pouvaient s'adresser à des milliers de gens. Et c'est ce qui se passait.
L'abbé Plater représentait la commission caritative de l'épiscopat polonais en France.
J'ai le souvenir d'une messe à Gdańsk, où justement à la fin de la messe, un dimanche, il y avait donc des milliers de gens, un de ses animateurs a pris la parole. J'ai le souvenir d'une soirée à Łódź, dans les locaux du couvent des Jésuites, qui était d'un courage inimaginable, où aussi les gens s'étaient rassemblés, c'était les meneurs, hein, et où ils pouvaient s'organiser, ils pouvaient se rencontrer, ils ne pouvaient pas se rencontrer dans les appartements. J'ai le souvenir, dans un presbytère de Lublin, où le prêtre en question avait donc convoqué pour parler avec moi une dizaine de personnes qui se sont présentées par des prénoms, je ne connaissais pas leur nom. Et je me souviens d'une chose, c'est que on parlait dans les toilettes, pour ne pas être entendu à travers les vitres, voyez-vous. On parlait dans les toilettes en faisant couler de l'eau. Il paraît que ça brouillait complètement les écoutes qui étaient partout présentes.
Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń.
Ô Père qui es aux cieux, de toutes nos forces, nous te prions, aide-nous à rentrer libres chez nous dans notre maison. Ô Père, aide Solidarność, notre maison, notre pays.
Ô Panie, z kruszcem jest to świeży kraj, do wolnych domów nam powrócisz daj, by stał się źródłem naszej siły, nasz dom, nasz kraj. Gdy z nami poniewiera marność, wyślemy Ci z nogą na śmierć. O Panie, wspieraj Solidarność.
11 octobre 1982, France Inter.
Pour la troisième fois dans l'histoire de la Pologne populaire, les chantiers navals de Gdańsk se sont mis en grève pour protester contre la dissolution du syndicat Solidarité par la Diète. Le mouvement de protestation a commencé à 6h du matin au chantier naval Lénine, bastion de la grève d'août 1980, et il aurait rapidement gagné tout le littoral. À 8h30, les travailleurs des chantiers Lénine se sont rassemblés devant le portail historique qui fait face au monument érigé à la mémoire des victimes des émeutes de décembre 1970. Ils ont formulé leurs revendications, rétablissement de solidarité, libération de l'ère Wałęsa et amnistie de toutes les personnes condamnées en vertu de l'état de siège. Comme en 1980, le portail des chantiers Lénine a été décoré de fleurs et d'un grand portrait de l'ère Wałęsa surmonté d'une banderole portant l'inscription « Solidarité existe et vaincra ».
C'était un régime policier compétents, mais ils n'y croyaient plus. Donc ils n'allaient pas jusqu'au bout de ce qu'ils faisaient. C'est quand même une révolution énorme qui s'est passée en Pologne. C'était le syndicat le plus fort au monde en moins d'un an. Ils devaient l'empêcher d'agir tout en sachant très bien qu'ils n'y arriveraient pas parce que c'était une nation qui se soulevait. Mais ça a été un soulèvement qui n'a pas fait de mort, pratiquement pas de mort, c'est extraordinaire. Il y a eu des assassinats politiques, surtout des prêtres. Popiełuszko était le premier, il y en a eu d'autres. On ne connaît que le cas du père Popiełuszko, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais ils n'osaient pas aller jusqu'au bout, parce qu'ils savaient très bien que c'était un soulèvement populaire. Et même, je pense, dans leur propre rang, il y avait des gens qui voulaient le changement. Dans leur propre rang. La preuve, c'est que beaucoup se sont requalifiés, ils sont au pouvoir aujourd'hui.
Oui, bien évidemment, on ne peut pas vraiment comparer les régimes totalitaires des années 80 et avec, par exemple, les années staliniennes. Surtout qu'il y avait une forte mobilisation populaire et sociale, il y avait déjà des structures indépendantes, il y avait des milliers intellectuels, ouvrières, donc il y avait surtout Solidarność. Il ne faut pas non plus oublier que les régimes, les responsables n'étaient pas non plus, eux, très soudés. Je crois qu'il y avait ceux qui ont commencé à douter. Il y avait les crises économiques qui étaient de plus en plus importantes. Il y avait les premiers signes de changement à l'Est. Donc, finalement, ce n'était pas, à mon avis, possible de kontroler la société comme dans un prison.
Nam się źle pracuje w takim układzie, bo sztuka nie trafia do masy. No taka sztuka w takie masy i nie trafia. Ludzie, no gibamy się.
Nie ma śpiewania bez gibania, no. A pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko Khomeiniemu. I cała sala! La,
la, la. C'était l'Histoire en direct, 1980, la naissance de Solidarność, avec Wojtek Psoniak, Sławomir Czarlewski, Christina Aymar, Michel Carputa, Edmond Maire, Richard Wojna, Jerzy Urban et l'abbé Plater. Une émission préparée par Aurélie Luneau, Archivina Martine Auger, remerciements au service des archives de la CFDT, ainsi qu'à Michel Carputa pour les chansons des internés. Traduction et lecture, Alexandre Rogalski. Prise de son, Frédéric Sordoyer. Mixage, Jean-Richard Dufour et Étienne Misca. L'Histoire en direct, une émission d'Emmanuel Laurentin, réalisée par Christine Robert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 décembre 1998. Vous pouvez la télécharger et la réécouter sur la page des nuits via franceculture.fr.